Chapitre 2. Gaieté de l'enfance. Sir Hugh se sentit encore revivre par l'aimable acquisition qu'il venait de faire. « Mon cher frère, ma chère sœur, s'écria-t-il à la première visite que ceux-ci lui rendirent, la demande que je vous ai faite de votre fille est la plus heureuse idée que j'ai eue de ma vie. Camilla est un charmant bijou. Elle saute et danse autour de nous jusqu'à ce que mes yeux soient là de la suivre et de veiller sur elle, de peur qu'elle ne se rompe le cou. Il faut que je prenne bien garde à moi, ou certainement elle coupera l'herbe sous le pied de cette pauvre Indiana, ce qu'à Dieu ne plaise. Quoi qu'il en puisse arriver, elle nous égaie tous, car je suis fâché de le dire, mais je crains, mon cher frère, que la pauvre Indiana ne finisse par devenir une véritable idole. » La jeune espiègle, ainsi en possession du cœur de son oncle, lui fit bientôt faire toutes ses volontés. Il ne pouvait rien refuser à ses prières caressantes et il se trouvait toujours bien payé de chaque complaisance par les transports de joie qui en étaient la suite. Indiana, ses premières délices, avait perdu tout son pouvoir sur lui, quoique dans tous les objets essentiels, il lui montrât la même bonté. Il reconnaissait toujours qu'elle était d'une beauté plus régulière, mais il trouvait dans Camilla une variété qui l'enchantait. Sa taille et son esprit étaient d'une égale souplesse, sa voix enjouée le réveillait de sa langueur, ses mouvements folâtres le divertissaient, ses petites idées lui en faisaient naître d'autres. Il était heureux de la retenir près de lui, il ne l'était pas moins de la laisser aller quand sa fantaisie l'appelait ailleurs. Depuis l'aube du jour jusqu'à la nuit, ses yeux étaient occupés à suivre cette vive et piquante figure, où ses oreilles attentives étaient recréées par ses chansonnettes, par ses éclats de rire, par toutes ces inflexions de voix qui annoncent la gaieté libre, franche et naïve. Heureux partage de l'enfance quand elle n'est pas comprimée par la sévérité ou domptée par les accidents et les souffrances. L'empire qu'elle prenait sur l'esprit de son oncle fut bientôt l'objet des entretiens de tous les domestiques et de leur rapport à Indiana, qui tantôt montrait beaucoup d'humeur et de dépit, et tantôt, avec une imprévoyante négligence, fermait les yeux sur tout cela. Mais elle eut bientôt à dévorer un sujet de jalousie beaucoup plus sérieux, car Sir Hugh, un mois tout au plus après l'arrivée de Camilla, prit la résolution de la faire son héritière. M. Tyrold lui-même, malgré sa tendresse pour sa fille, fit observer à son frère combien cette partialité serait contraire aux intérêts de son neveu, de sa nièce et de tout le reste de leur famille. Et quoiqu'au fond de son cœur, Mme Tyrold ne vit rien d'étonnant dans cette préférence pour sa chère Camilla, cependant sa tendresse maternelle prit le parti de ses autres enfants, et sa justice fut sensiblement blessée pour Indiana et pour Clermont Linmer, de la perte trop peu méritée de leurs brillantes espérances. À la vérité, les fruits de ce changement de résolution devaient être recueillis par sa fille bien-aimée, mais ce serait aux dépens d'un neveu et d'une nièce innocente à qui d'abord ils étaient destinés, et cette réflexion en empoisonnait toute la douceur dans une âme aussi droite que la sienne. Malgré toutes les remontrances, le baronnet resta inébranlable. Il en agirait noblement, disait-il, envers Clermont et sa sœur, en leur assurant une rente de 1000 livres sterling à partager entre eux. Chacun de ses neveux et nièces aurait un legs considérable, mais la masse de sa fortune irait tout entière à sa chère Camilla. De quelle autre manière pourrait-il s'acquitter envers elle de tout le plaisir qu'elle lui faisait? Par quelle autre preuve pourrait-il lui témoigner, quand il ne serait plus, qu'il l'avait mieux aimée que tous les autres? Sir Hugh ne pouvait rien garder de secret. Camilla sut bientôt quel riche héritage lui était réservé, et les domestiques, qui, à présent, redoublaient pour elle d'attention et de respect, semblaient disputer à qui la pénétrerait mieux de son pouvoir et de son opulence future par les faveurs qu'il commençait à lui demander. L'heureuse enfant ne prêtait que fort peu d'attention à tout cela. L'intérêt et l'ambition ne pouvaient trouver place dans une jeune tête qui s'occupait avec ravissement de jeux, de chants et de danses. Cependant, les demandes qu'on lui faisait sans cesse la familiarisèrent de bonne heure avec des idées de protection. Et, quoique absolument pure de toute pensée d'orgueil et de supériorité, elle amusait souvent son imagination de tous les présents qu'elle pourrait faire à ses amis. C'était un carrosse pour sa maman, afin qu'elle pût venir la voir plus souvent, un cheval pour son frère Lionel, qui ne désirait rien avec plus ardeur, un beau secrétaire avec une serrure et une clé pour sa sœur aînée Lavinia, des pompons et des colifichets sans nombre pour sa cousine Indiana, des poupées et des joujoux sans fin pour sa petite sœur Eugénia, et une bibliothèque de livres tout neufs, bien reliés et bien dorés pour son papa. Mais toutes ces magnifiques largesses ne regardaient que le temps où, devenue plus grande, elle pourrait disposer de quelque chose. La moindre idée de survivre à son oncle, si elle lui était présentée, venait aussitôt détruire, au milieu d'un torrent de larmes, tous ses riants projets, tous ses petits châteaux en Espagne, et son désespoir montrait quel instinct de reconnaissance la bonté des parents peut éveiller, même à l'âge le plus insouciant de la vie, dans les cœurs formés pour être sensibles. L'anniversaire de sa naissance, car elle allait entrer dans sa 10e année, fut destiné à une petite fête qui devait annoncer à tous les voisins les résolutions de son oncle en sa faveur. Son frère et ses sœurs furent invités à venir à Clèves célébrer ce jour avec elle. Mais Sir Hugh évita de prier M. et Mme Tyrold pour qu'aucune contrainte n'empêchât l'aimable enfant de se livrer à toute sa gaieté. Il voulut même que Miss Margland ne parût point de tout le jour, de peur que sa présence ne fût trop imposante. La petite compagnie, composée d'Indiana, qui était exactement du même âge que sa cousine, de Lavinia et d'Eugénia, qui avaient la première 2 ans de plus et la seconde 2 ans de moins, de leur frère Lionel, parvenu à sa 13e année, et d'Edgar Mandelbert, pupille de M. Tyrold, se trouvèrent tous, en cette importante occasion, réunis à 8 heures du matin chez le baronnet pour déjeuner. Edgar Mandelbert, jeune enfant de 13 ans, mais d'un esprit et d'un jugement fort au-dessus de son âge, était héritier d'une des plus belles terres du comté et fils unique d'un ami intime de M. Tyrold, aux soins duquel il avait été confié dès son enfance. Ce zélé tuteur dirigeait son éducation avec autant de zèle, quoique avec moins d'économie, que celle de son propre fils. Il lui avait choisi pour mentor le docteur Marchmont, homme d'une érudition profonde, et il faisait venir son pupille à Hetherington 2 fois par an pour examiner ses progrès et lui donner ses propres leçons. « Mon cher ami, dit son père à M. Tyrold, en le lui recommandant sur son lit de mort, je laisse mon fils pourvu d'une fortune considérable. Vous le rendrez, j'en suis sûr, bon et heureux. Et si, dans la suite, quelqu'une de vos filles, par les fréquentes occasions qu'il aura de les voir, devenait l'objet de son choix et de ses affections, ne vous opposez point à leur mariage à cause de la différence de fortune. Quelle fortune pourrait valoir une fille de vous et de votre incomparable épouse ? » M. Tyrold était trop noble pour se croire autorisé, par cette généreuse déclaration, à tâcher de préparer les événements en sa faveur. Mais il se regarda comme dispensé, aux yeux de l'honneur le plus scrupuleux, de toute mesure capable de les faire tourner à son désavantage. La résolution qu'il prit fut de livrer ses enfants, à mesure qu'ils grandiraient, aux impulsions de leur cœur, sans chercher par aucun moyen, soit à y faire naître, soit à y contrarier les sentiments de l'amour. Le jeune Edgar avait hérité de son père, non seulement de la terre de Beech Park, mais encore de ses sentiments pour M. Tyrold, qui semblaient lui avoir été transmis avec la vie. Et en retour des soins et de l'affection paternelle que son tuteur lui prodiguait, il avait donc pour lui une tendresse et une vénération vraiment filiales. La petite compagnie trouva au déjeuner tout ce qui pouvait lui être le plus agréable. D'un côté des fruits, des sucreries et des gâteaux. De l'autre côté, des joujoux, des cartes, des aveugles avec leurs violons. Tout cela était aux ordres de l'aimable maîtresse de la fête. Mais l'allégresse du jeune groupe, tout éclatante qu'elle était, pouvait à peine égaler celle de Sir Hugh. Il entrait dans leur jeu, il oubliait toutes ses souffrances, il riait de les voir rire. Il s'était mis entièrement à la disposition de sa chère petite espiègle, qui, d'abord, lui fit des moustaches avec du liège, poudra les cheveux bruns de sa courte perruque et y attacha une queue de papier couverte d'un ruban noir. Ensuite, elle le métamorphosa en femme, le coiffant de son beau nez, quoique tout neuf, tandis qu'elle enveloppait sa petite tête de la perruque de son oncle. Puis elle lui attacha autour du corps un tablier de taffetas, lui mit un hochet dans les mains et la poupée d'Eugénia sur son sein, lui disant que c'était un enfant qu'il fallait allaiter et empêcher de crier. Lionel appela les domestiques pour qu'ils fussent témoins de cette plaisante mascarade, et les domestiques firent à leurs hôtes nombreux le plaisir de les regarder par les fenêtres. Sir Hugh ne se refusait à rien, s'acquittait de tous les rôles qui lui étaient prescrits, riait aussi haut que de la grotesque figure qu'il lui avait donnée, et les encourageait de bon cœur à continuer, avouant qu'il se n'était jamais plus amusé depuis sa chute de cheval, et leur conseillant avec beaucoup de zèle d'être joyeux tandis qu'ils pouvaient l'être. « Car, disait-il, mes chers enfants, vous ne serez jamais plus jeunes qu'aujourd'hui, ni moi non plus, quoique je sois bien vieux auprès de vous. Mais pour ce qui est de cela, c'est la même chose à tout âge. » Cependant, il se sentit fatigué le premier, au point de prier sa chère nièce de reprendre sa pauvre poupée, de peur qu'elle ne lui échappât. En vain, les enfants le conjurèrent de l'allaiter encore quelques instants. « Non, leur dit-il, je ne jouerai pas davantage, je suis là à n'en pouvoir plus. Ainsi, choisissez, ou de venir prendre l'air avec moi, afin que je me repose dans ma voiture au milieu de votre bande joyeuse, ou de rester ici et de jouer entre vous jusqu'à ce que je revienne, ce qui, j'imagine, va vous jeter la bride sur le col. Cependant, ne craignez pas d'être troublés aujourd'hui par aucune réprimande. » Il y a dans l'année assez de jours pour gronder sans qu'on y ajoute celui-ci. Camilla décida sur le champ qu'on irait promener avec son oncle, et tout le monde y consentit volontiers, car la bonne humeur de Sir Hugh avait tellement gagné leur cœur qu'il leur semblait à tous que leur plaisir dépendait de sa présence. En conséquence, la voiture fut demandée pour le baronnet et ses quatre nièces. Edgar Mandelberg et Lionel, à la requête de Camilla, eurent chacun un cheval. On pria celle-ci de décider où l'on irait. Tandis qu'elle hésitait dans son choix, Lionel demanda à Edgar de leur faire voir sa maison, son parc et ses jardins, qui n'étaient qu'à 3 000 de Clèves. Edgar soumit la proposition à Indiana, dont l'exquise beauté lui avait déjà fait de ce jeune homme un admirateur attentif et complaisant. Indiana y donna son approbation, et l'héroïne du jour y ayant consenti avec plaisir, on partit pour cette joyeuse expédition. Dans la route, les deux jeunes cavaliers s'empressaient de cueillir ce qui s'offrait à leurs yeux, des fruits sauvages, des bouquets, des branches odorantes, et les présentaient aux portières du carrosse, réservant toujours l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus beau pour Indiana. Car Lionel, encore plus son admirateur qu'Edgar, déclarait que ses sœurs étaient bien peu de choses en comparaison de sa belle cousine. Pour Sir Hugh, dans les occasions même les plus légères, il montrait sa préférence pour Camilla. Il avait donné ordre que sa chaise à porteur le suivît au parc du jeune Mandelberg, afin que, prenant sa chère nièce à ses côtés, il pût, sans se fatiguer, faire le tour des jardins. Le reste de la compagnie devait aller à pied. Arrivés à la maison d'Edgar, Indiana y reçut encore l'hommage de ses deux jeunes amis. Il lui montrait les plus beaux points de vue, la couvrait des plus belles fleurs, la chargeait des meilleurs fruits. Sir Hugh ne s'en fut pas plus tôt aperçu que, faisant arrêter sa chaise, « Holà, venez ici, mes jeunes garçons !» s'écria-t-il. « Que faites-vous là tous les deux ? Monsieur Mandelberg, pourquoi n'apportez-vous pas à Camilla cette belle grappe de raisin ?»« Monsieur, dit Mandelberg, je l'ai déjà promise à Miss Windmere. » Oh, oh, la lui avez-vous promise? Cela est différent. Je n'ai pas le droit de vous priver du plaisir de la lui donner. Indiana, ma chère amie, comment trouvez-vous ce lieu-ci?
Charmant en vérité, mon oncle. Je n'en ai pas encore vu qui m'ait paru plus agréable.
S'il vous avait déplu, dit Edgar, je sens que je ne m'en serais plus soucié.
Oh, répondit Indiana, je ne me lasserai jamais de l'admirer. »
Ce petit dialogue fit impression sur Sir Hugh, qui regarda aussitôt les deux interlocuteurs avec beaucoup d'attention, comme s'il eût dès ce moment arrêté leur destinée future. Mais toujours incapable de garder pour lui seul ce qu'il pensait, « Fort bien, dit-il, fort bien, mes enfants, ce n'est pas précisément cela que j'avais arrangé dans ma tête, mais tout est pour le mieux dans ce monde, pas de doute. » Quoique ça, cette terre se trouvant dans mon voisinage aurait mieux convenu à Camilla,
pourvu toutefois que nous eussions pu acheter cet espace de 3 000 qui est entre les deux parcs et qui forme, je ne puis dire au juste combien d'arpents. Mais tout cela réuni ferait, autant que j'en puis juger, la plus belle possession du pays. Cependant, mon cher Mandelbert, vous avez droit de choisir pour vous-même. La beauté n'est purement qu'une affaire de goût, et Indiana est la plus belle enfant, ou à peu près, que j'ai jamais vue, quoique ma petite Camilla me semble plus jolie et plus attrayante. N'ayez pourtant aucune inquiétude sur mon consentement, car mon plus grand plaisir serait que ces deux excellentes filles, proches parentes comme elles le sont, devinssent encore assez voisines pour se regarder tout le long du jour d'un parc à l'autre par le moyen d'un télescope. Edgar, qui comprit fort bien le sens de ces paroles, rougit profondément, et, oubliant ce qu'il venait de dire, il offrit ses raisins à Lavinia. Pour Indiana, se regardant déjà comme maîtresse d'un séjour si charmant, elle sourit avec complaisance. Les autres étaient trop occupés de tout ce qui était autour d'eux pour écouter ces longs discours. On se remit à marcher, mais bientôt après, Lionel, se glissant près de la chaise de son oncle, prévint Camilla que, d'après le rapport du jardinier, il y avait une foire à Northwick, éloignée au plus d'une demi-mille, et il la pria de déterminer son oncle à y aller. Elle ne trouva nulle difficulté à lui rendre ce petit service, et Sir Hugh était incapable d'hésiter un moment lorsqu'il s'agissait de faire plaisir à Camilla. Sa voiture et les chevaux pour les deux jeunes cavaliers furent aussitôt commandés, et au grand regret du seul Edgar et d'Indiana, les belles plantations de Beech Park abandonnées pour la foire. On avait à peine fait quelques pas que la gaieté qui brillait sur le visage de Lavinia, l'aînée des filles de M. Tyrold, se changea en un sombre chagrin, comme si quelque pénible souvenir s'était tout à coup présenté à son esprit. Sir Hugh s'aperçut de ce changement et en demanda la cause. Lavinia fondit en larmes et répondit en criant qu'elle était coupable d'une si grande faute qu'elle ne pourrait jamais se la pardonner. Chacun à l'envi s'empressa de la consoler. Camilla, en lui prenant la main avec tendresse, la petite Eugénia, en criant encore plus fort et en la couvrant de baisers, Indiana, en demandant ce qu'elle avait à pleurer, et Sir Hugh, en lui donnant une des plus belles pêches dont il avait fait provision pour Camilla, et en lui disant « Ne criez pas ainsi, ma chère, ne criez pas. Prenez cette pêche. J'ose vous dire que vous n'êtes pas si méchante que vous le croyez. » La jeune pénitente demanda, les larmes aux yeux, qu'on lui permît de descendre de la voiture avec Camilla, la seule à qui elle voulait expliquer le sujet de ses pleurs. Camilla ouvrit presque la portière elle seule, dans la tendre impatience où elle était, et à peine furent-elles assises hors de la route. « À présent, dites-moi ce qui vous chagrine, ma chère Lavinia, et je suis sûre que mon oncle fera tout au monde pour vous tirer de peine. » « Oh, Camilla, répondit-elle, j'ai désobéi à maman sans aucun dessein de lui désobéir, mais j'ai oublié tous ses ordres. Elle m'avait recommandé d'empêcher qu'Eugénia ne fît un pas hors de Clèves à cause de la petite Vérole, et Eugénia a déjà été à Beech Park, et à présent, comment dire qu'il ne faut pas que cette chère enfant aille avec nous à la foire ?» Que cela ne vous tourmente pas, lui dit Camilla, dont les baisers essuyaient les larmes de sa sœur. Car si mon oncle veut bien nous ramener à Beech Park, j'y resterai pour amuser Eugénia. Pendant ce temps, vous irez à la foire et vous nous reprendrez à votre retour. Elle courut aussitôt à la voiture et, apercevant Edgar et son frère que la curiosité avait amené près d'elle et qui avait tout écouté, elle les chargea du soin de consoler Lavinia. Lionel, s'écria Edgar, croiriez-vous bien que votre sœur, tandis qu'elle parlait si tendrement à Lavinia, m'a paru presque aussi jolie que sa cousine Indiana? Lionel prétendit que rien n'était plus ridicule. Edgar soutint que rien n'était plus vrai. Camilla se précipita dans la voiture et, jetant ses bras autour du cou de son oncle, elle lui dit à l'oreille ce que sa sœur lui avait confié. « Pauvre innocente, chère petite !» s'écria le baronnet. « Est-ce là toute sa faute ?» Eh bien, ce n'est précisément rien, eu égard à son âge. Ensuite, mettant la tête à la portière, Lavinien, lui dit-il, vous n'avez rien fait que de bien naturel, et c'est ce que je dirais à votre maman, qui est une femme de sens et qui ne prétend pas qu'une jeune tête comme la vôtre soit aussi mûre que la sienne et que la mienne. Mais montez dans la voiture, ma chère amie, nous irons jusqu'à Northwick pour nous promener et nous reviendrons ensuite à Clèves. Eugénia avait été jusqu'alors d'une santé si délicate que Madame Tyrol n'avait osé la faire inoculer, mais elle l'avait empêchée avec beaucoup de soin de se mêler parmi les enfants du voisinage. À présent que la constitution d'Eugénia se fortifiait de jour en jour, sa mère n'attendait plus que la fin des chaleurs de l'automne pour mettre fin à tant d'inquiétudes par une salutaire inoculation. La désobéissance était trop peu familière à Lavinia pour ne pas la rendre malheureuse. Aussi conjura-t-elle son oncle de retourner à Clèves sur le champ. Celui-ci y consentit et les prévint seulement qu'ils ne pourraient plus être de leur jeu qu'après le dîner. Le cocher reçut donc de nouveaux ordres, mais Lionel protesta qu'il ne serait pas privé du plaisir d'aller à la foire. Et, sourd à toutes les défenses, il piqua son cheval et s'éloigna aussitôt. Sir Hugh, le suivant des yeux avec beaucoup d'inquiétude, ne cessait de crier « Bon Dieu, il va se briser tous les membres! C'est ce qui arrive toujours aux jeunes gens lorsqu'ils montent à cheval pour la première fois !» Camilla, d'autant plus effrayée que c'était elle qui avait fait donner un cheval à son frère, demanda en grâce qu'on envoyât le domestique après lui. « Je le veux bien, ma chère, je le veux bien si vous le désirez !» Mais nous n'avons que ce domestique pour nous, tous les autres étant restés à Clèves afin de préparer le bal et le souper, de sorte que si nous versions nous-mêmes, nous n'aurions plus personne pour nous relever. Edgar offrit de courir sur les traces de Lionel et de le ramener. « Je vous remercie, mon cher, répondit Sir Hugh. Vous êtes un excellent garçon, mais vous n'êtes pas meilleur écuyer que Lionel, c'est moi qui vous le dis, et il arriverait deux malheurs au lieu d'un, ce qu'à Dieu ne plaise. » « Eh bien, dit Indiana, allons tous ensemble à la foire pour que Lionel en revienne avec nous. »« Du moins, mon oncle, s'écria Lavinia, qu'aucune de nous, je vous prie, ne sorte de la voiture. » Sir Hugh le lui promit, et quoiqu'il ne fût pas grand partisan de l'inoculation, qui n'était à ses yeux qu'une manière de se rendre malade de gaieté de cœur, cependant, touché des craintes de Lavinia, il appela le domestique un moment avant d'entrer dans la ville. « Écoute, Jacob, va devant et assure-toi si personne ici n'a la petite vérole. » Aux premières maisons des faubourgs, Lavinia fit tant d'instances que le cocher eut ordre d'arrêter. Indiana demanda aussitôt la permission de descendre et d'aller jusqu'à la foire. Edgar s'offrit à la conduire. Sir Hugh y consentit, mais il voulut que Lavinia et Camilla fussent aussi de la partie. En vain, Lavinia voulut s'en défendre, il l'assura que la promenade lui ferait du bien et qu'elle pouvait être sans inquiétude, car ce serait lui-même qui resterait avec la petite Eugénia pour l'amuser et pour veiller sur elle. Mais à peine l'enfant vit ses sœurs s'éloigner qu'elle voulut aussi les suivre. Sir Hugh l'embrassait et la plaignait, avouant qu'elle avait autant de droit d'y aller que les autres. Cela ne fit que redoubler les pleurs d'Eugénia, si bien que son oncle, n'en pouvant plus soutenir la vue, dit qu'il se croirait coupable de la tourmenter plus longtemps et lui promit de faire ce qu'elle désirait, pourvu qu'elle cessât de crier. En conséquence, le cocher eut ordre de les mener à la première boutique où l'on pourrait acheter quelques poupées. Mais n'ayant point là de domestique pour aller les chercher, Sir Hugh descendit et permettant à la petite fille, pour laquelle il ne craignait rien lui-même, de l'accompagner, il entra avec elle dans une boutique et lui dit de prendre parmi les joujoux tout ce qui lui plairait et autant qu'elle pourrait en emporter. Le chagrin de l'enfant s'était changé en transport de joie et sa petite main pouvait à peine soutenir le coin de son fourreau blanc chargé de tant de trésors. Sir Hugh, qui voulait que tout le monde fût également heureux, s'occupait à choisir de petits cadeaux pour les autres enfants lorsqu'eux-mêmes s'avancèrent vers la même boutique où ils étaient loin de croire le rencontrer. Mais à peine Sir Hugh avait eu le temps de leur crier « Oh, oh, est-ce que vous nous aviez vus ?» que l'innocente voix d'Eugénia, se faisant entendre avec ces mots « Petit garçon, qu'avez-vous au visage ?» attira son attention de notre côté et il aperçut un enfant encore rouge des marques de la petite vérole. Edgar, que cette terrible vue venait aussi de frapper, s'élança, saisit Eugénia dans ses bras et, sans égard pour ses joujoux et pour sa résistance, la porta jusque dans la voiture. Tandis que Lavinia, dans le premier mouvement de sa terreur, courut au petit garçon en lui criant « Oh, éloignez-vous ! Éloignez-vous !» Elle l'entraîna hors de la boutique et, incapable de raisonner ce qu'elle faisait, elle prit son tablier des deux mains et lui en couvrit le visage. Sir Hugues s'était aussi précipité hors de la boutique, et tandis qu'il s'appuyait sur son bâton, car la surprise et l'émotion lui laissaient à peine la force de se soutenir. « Bon Dieu ! S'écria-t-il, quelle triste créature nous sommes, nous autres pauvres mortels !» Edgar eut la présence d'esprit de ramener à la voiture Indiana et Camilla, et, après avoir prié Sir Hugues d'y entrer aussi, il courut à Lavinia. Mais dès qu'il l'aperçut, sanglotante auprès du petit garçon, dont elle cachait toujours le visage pour que sa sœur ne pût le voir, il sentit tout aussitôt tout le danger qu'il y aurait à la faire revenir près d'Eugénia. Extrêmement embarrassé pour eux tous et craignant, s'il s'approchait du jeune garçon, de rapporter lui-même dans la voiture les germes de la maladie, il envoya un homme à Sir Hugues pour lui demander ce qu'il fallait faire. Sir Hugues, entièrement déconcerté par ce nouvel incident et ne sachant comment faire face à tant de dangers, ne put répondre autre chose, sinon qu'il priait le jeune Edgar de lui donner son avis. Edgar, consulté avec tant de déférence, sentit pour la première fois toutes les ressources qu'il avait en lui-même et donc, à son âge, il n'avait pas encore eu la moindre occasion de faire usage. Il fut prié Sir Hugues de retourner à Clèves sur le champ et d'y garder quelques jours Eugénia avec Camilla et sa cousine, tandis qu'il se chargeait lui-même de chercher Lionel, qui l'aiderait à conduire Lavinia à Etherington, sans que celle-ci pût voir sa sœur, pour qui elle était à présent aussi dangereuse que le petit garçon lui-même. Sir Hugues, extrêmement soulagé, lui fit dire qu'il deviendrait assurément le premier écolier de son cours et qu'il ferait bien de prendre une voiture pour lui et pour Lavinia, en laissant à un domestique le soin de son cheval, et aussitôt il ordonna au cocher de regagner Clèves. Edgar remplit les ordres de Sir Hugues avec une extrême diligence, mais il eut beaucoup de peine à trouver Lionel, et plus encore à rassurer Lavinia, dont les craintes étaient si vives en approchant d'Etherington, que pour les calmer un peu, il ordonna au postillon de le conduire d'abord, ainsi que sa compagne, à une ferme voisine de Clèves, d'où il envoya un exprès à Sir Hugues pour le prier d'écrire à Madame Tyrold quelques lignes d'excuses en faveur de la pauvre Lavinia. Sir Hugues y consentit de bon cœur, mais il avait si peu l'habitude d'écrire qu'il les fit prier de dîner à la ferme pour qu'il eût le temps de composer son épître. Dans l'après-dîner, il renvoya la lettre suivante. À Madame Tyrold, au presbytère appartenant au respectable recteur M. Tyrold, demeurant pour le présent à Etherington, dans le Hampshire. Chère sœur, je ne suis pas un bon bien écrivain en comparaison de mon frère, ce qu'il vous plaira d'excuser par rapport à mon ignorance, qui est ma seule justification. Je vous prie de ne pas en vouloir à la petite Lavinia, qui n'a rien à se reprocher dans toute l'affaire que de n'avoir pas bien fait, seulement en ne nous prévenant pas dès le commencement, ce qui est vraiment excusable, les plus sages d'entre nous ayant été jeunes autrefois et les plus savants étant sujets à se tromper, mais à plus forte raison les ignorants, ce dont je puis parler bien mieux que nôtre. Cependant, comme elle aurait certainement gagné la petite Vérole sans le bonheur qui fait qu'elle l'a déjà eue, je crois que le mieux est de laisser Eugénia quelques jours à Clèves, par égard pour la contagion de Lavinia. Et quand même Eugénia aurait la petite Vérole, je suis sûr que votre sagesse s'en consolerait, puisque c'est le cours de la nature. Et que, de savoir s'il eût mieux valu l'inoculer, c'est ce qu'aucun homme ne peut dire, pas même un médecin. Ainsi, tout cela étant ma faute, sans aucun dessein de mal faire, s'il en résulte quelque chose, ma chère sœur, vous ne le prendrez pas en mauvaise part, surtout pour la pauvre petite Lavinia, car il serait affreux que de si jeunes objets ne fussent pas heureux au premier moment de leur vie avant d'avoir nuit à qui que ce soit au monde. Pauvres chers enfants, c'est bien assez d'être malheureux après être devenu méchant. Ce que Dieu le sait, nous sommes tous exposés à devenir, chacun en son temps. Je présente mes tendres compliments à mon frère, et je reste, chère sœur, votre affectionné frère, Hugh Tyrold. Post-scriptum, il y aurait de l'injustice envers mon frère de ne pas dire que la conduite du jeune M. Mandelbert a fait en cette occasion le plus grand honneur à ses études, ce qui doit être une grande satisfaction pour la personne chargée de son éducation. Ce malheureux accident attrista le reste de la journée qui avait si bien commencé pour la jeune héritière. L'absence de trois de leurs amis, jointe à la crainte bien fondée des justes reproches de Mme Tyrold, causait à ceux qui restaient plus de chagrin que le bal même et le souper ne pouvaient leur donner de plaisir. Et Sir Hugh, qui souffrait déjà de leur tristesse, avait encore, quoiqu'à peine il se l'avouât à lui-même, un autre sujet d'inquiétude relatif à Eugénia et à la petite Vérole. Le repentir de la tremblante Lavinia obtint bientôt de Mme Tyrold le pardon qu'il méritait. Mais elle ne put aussi bien pardonner à Sir Hugh son manque de prévoyance et elle attendit avec inquiétude le moment où elle pourrait aller retirer Eugénia des mains d'un homme qui était à ses yeux encore plus enfant que les enfants eux-mêmes.